Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL Soir, c'est parti jusqu'à 20h et dès 19h15, comme chaque vendredi, on va défaire le monde avec Cyprien Signé et sa bande. Nous sommes donc le vendredi 13 novembre et pas besoin de faire un dessin. C'est une date qui nous renvoie 5 ans en arrière dans l'horreur du Bataclan, des terrasses, du Stade de France. Mais à la une ce soir, il y a le rapport Debré qui préconise le report à fin juin des élections régionales, ce que va d'ailleurs proposer le gouvernement. Mais le rapport évoque aussi le développement du vote par correspondance ou par Internet. Il n'existe plus en France depuis 1975. Alors une révolution numérique est-elle en vue pour les électeurs? Parmi les défenseurs de ce vote à distance, Mounir Majoubi, le porte-parole de La République En Marche, ancien secrétaire d'État au numérique. Il sera l'invité d'RTL Soir à 18h20. Et puis autre invité, le chef Thierry Marx, évidemment au chômage forcé actuellement. Il publie un livre sur son parcours tortueux, atypique, celui qui ne combat pas a déjà perdu. Et il nous donne sa philosophie face au ravage sanitaire et économique du Covid. Seule la mort est irréversible. Thierry Marx sera avec nous après 18h30. Le journal, c'est avec Amandine Bégaud. Bonsoir Amandine.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
À la une, du nouveau dans l'enquête sur l'attentat de Nice, puisqu'on apprend ce soir qu'une photo du tueur de Samuel Paty a été retrouvée dans le téléphone de l'assaillant.
Dans ce journal également, le désarroi des commerçants après les annonces hier de Jean Castex à Toulouse. Vous le verrez, certains ont ouvert aujourd'hui malgré l'interdiction pour crier leur détresse. Nous irons aussi à Avrillé, près d'Angers, où un adolescent a été poignardé tout à l'heure à la sortie des cours. Et puis un peu de baume au cœur, il nous en faut aussi. Ça y est, le secrétariat du Père Noël est au travail.
Ah bah très bien.
Il a ouvert ses portes hier. Visite guidée dans un instant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour ce week-end.
Oui, il y a du boulot. Alors, côté ciel, Peggy Broche, demain, il y aura du soleil quasiment partout.
Quasiment, oui. Alors, ce sera après dissipation des grisailles matinales. On va retrouver du beau temps, sauf sur le nord-ouest, parce qu'on a une perturbation qui va donner quelques pluies. Encore beaucoup de nuages, de fortes rafales de vent, surtout entre la Bretagne et la Normandie. Ça restera également plus nuageux, près de la Méditerranée, avec quelques pluies sur les Cévennes et un vent fort, mais ailleurs, du beau temps, sous des températures encore en haut. C'est très douce pour la saison, de 14 à 18 au nord et de 16 à 21 au sud.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Soir.
Et on commence donc avec ces nouveaux éléments ce soir dans l'enquête sur l'attentat de Nice. Bonsoir Alice Moreno.
Bonsoir.
On apprend que les enquêteurs ont retrouvé une série de photos troublante dans le téléphone de l'assaillant, une photo notamment du tueur de Samuel Paty.
Oui, une photographie d'Abdullah Kanzorov trouvée dans l'un des deux portables du terroriste de la basilique de Nice. Photo qui était accessible en source ouverte, qui circulait sur Internet ou via des messageries à la disposition de tous après le drame de Conflans, avant d'être supprimée. L'assaillant de Nice a donc pu se la procurer tout seul. Il a pu la télécharger. Ça n'établit en rien un quelconque lien entre les deux terroristes. D'autres photographies relatives au groupe État islamique ont également été découverte dans un téléphone d'Awisawi. Là encore, ça ne prouve pas que l'organisation a piloté l'attaque. À ce stade de l'enquête, le parquet antiterroriste indique bien qu'aucun complice n'est identifié. Les investigations se poursuivent aussi en Tunisie, pays d'origine du meurtrier. Là-bas, il était en contact avec un groupe de fondamentalistes religieux dont les profils ne sont pas tout à fait établis. Ce ne sont pas des djihadistes, mais on ignore s'ils étaient en relation avec un groupe terroriste.
Merci beaucoup Alice Moreno du service police-justice de RTL, des informations révélées dans un contexte bien particulier. Nous sommes, Vincent, vous le rappeliez, aujourd'hui le 13 novembre, il y a 5 ans, jour pour jour, la France plongeait dans l'horreur. Alors on sait tous où l'on était ce soir-là. Marie, elle, était au Bataclan. 5 ans plus tard, elle a tenu, comme chaque année, à retourner sur les lieux, Guillemette Franquet.
En face du Bataclan, un groupe d'amis, des couples, se serrent dans les bras. Parmi eux, une petite silhouette, Marie, venue déposer une fleur.
C'est un sentiment assez étrange parce qu'il y a notre propre douleur de se souvenir effectivement d'un moment vraiment traumatisant, mais dont on est sorti vivant. Donc je suis là pour témoigner effectivement. J'amène pas forcément quelque chose aux commémorations. C'est un moment de recueillement et où toutes nos pensées sont dirigées vers ceux qui sont partis. Et ça fait le job, ça suffit aussi.
Marie fait partie de la vingtaine d'otages retenus par les terroristes dans un couloir du Bataclan, devant cette salle de concert où ils ont vécu l'enfer. Une dizaine d'entre eux se sont donné rendez-vous.
Avec les otages dont je fais partie, on s'est dit qu'on ne pouvait décemment pas passer à côté d'une commémoration. Donc on s'est organisé pour rendre notre propre hommage. Pour nous, il était inenvisageable de passer à côté de ça et de ne pas venir ici pour se recueillir, c'est sûr.
Depuis l'attentat, ces survivants de la prise d'otages forment un groupe uni. soudés.
Il y a 5 ans, je ne connaissais pas ceux qui sont devenus aujourd'hui mes potages. Ce que j'appelle mes potages, c'est la contraction de potes et otages. Le lieu de notre rencontre et les circonstances de notre rencontre font qu'effectivement, on a un lien qui est assez indestructible maintenant.
Marie se pose la question. Peut-être que le Bataclan devrait cesser d'être une salle de concert par respect pour les victimes.
Sacrée leçon de vie, hein, de ces potages, donc, comme Marie les appelle. Reportage est signé Guillemette Franquet pour RTL.
Amandine, on ouvre le dossier Covid avec ce soir la détresse de nombreux commerçants.
Pas de réouverture, on l'a bien compris, avant le 1er décembre. Jean Castex a douché hier les espoirs de beaucoup. Résultat, à Toulouse, certains ont décidé, malgré tout, d'ouvrir leur boutique aujourd'hui. C'est le cas d'Antoine Nori. Il a, Patrick Tégéro, un magasin de vêtements de cuir et de peau dans le centre-ville.
La grille du magasin s'est déjà un peu grippée. Si Antoine Nori a ouvert sa boutique ce matin, ce n'est pas pour ses clients, mais pour exprimer son désarroi, sa colère.
Nous n'avons pas touché un seul euro des loyers que nous avons dû payer depuis les 3 mois de confinement du printemps, ce loyer de novembre également. Quant aux 10 000 euros d'indemnisation, c'est un anesthésiant pour éviter une fronde massive des commerçants, car ça ne concerne que les commerçants qui font 2 ou 3 fois plus de chiffres. Dès que vous faites 3, 4 fois, 5 fois, ce qui est notre cas, 10 fois ce chiffre-là, c'est dérisoire.
Un client fidèle, Jean-Phi, entre alors dans le magasin.
Vous voulez qu'on vous montre quelque chose
ou... Je regarde, oui, je suis qui hein,
D'accord, très bien.
Il faut bien qu'ils vivent, ces commerçants. Il y a beaucoup moins de monde dans un petit magasin. On risque beaucoup moins que dans une grande surface.
Bon, nous, on n'est pas contre le bien fondé de la fermeture. Simplement, l'accompagnement est inexistant. Les petits vont être sauvés, mais les moyens commerces et les plus grands commerces, ceux qui embauchent vraiment, vont être détruits.
Antoine Nori pense à ses 600 000 euros de stock et à ses 4 employés au chômage partiel.
À Toulouse, le reportage RTL de Patrick Tégéro. Un Covid à l'origine aujourd'hui d'un décès sur 4, c'est ce qu'a dit hier le Premier ministre, responsable aussi sans doute de la hausse de la mortalité en France observée ces dernières semaines. Bonsoir Agathe Landais.
Bonsoir.
On meurt plus actuellement qu'en 2018 ou 2019 à la même période.
Oui, les chiffres de l'INSEE sont clairs. Entre début septembre et début novembre, on a constaté cette année 10% de décès de plus que l'année dernière à la même période et 11% de plus qu'il y a 2 ans. Ces chiffres montrent aussi que cette tendance s'accélère en même temps que la deuxième vague du Covid, puisque si on regarde en particulier la deuxième quinzaine du mois d'octobre, l'augmentation est encore plus forte, plus 18% par rapport à l'an dernier. Et il y a un élément qui permet d'affirmer que cette hausse des décès est bel et bien liée à la crise du Covid. Il suffit pour ça de regarder où on meurt le plus en ce moment, et c'est en Auvergne-Rhône-Alpes, 20% de morts de plus que l'an dernier, suivi ensuite par la région PACA, l'Occitanie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, bref, des régions qui sont aujourd'hui très touchées par l'épidémie. En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est encore plus marqué dans la Loire, plus 34% de décès, mais aussi en Haute-Loire et en Savoie, des départements où le nombre de personnes positives est près de 3 fois supérieur à la moyenne nationale.
Agathe Landais, voilà donc des chiffres officiel qu'on se le dise au moment où certains affirment notamment sur les réseaux sociaux le contraire. Et puis conséquence de cette crise sanitaire, et bien les élections régionales qui étaient initialement prévues au mois de mars devraient être reportées.
Au mois de juin, a priori, hein, car pour que ce soit officiel, Jacques Seret, il va falloir passer par la case Parlement.
Oui, c'est la procédure nécessaire pour repousser ces élections. Jean Castex va donc soumettre au vote des parlementaires le report des départementales et des régionales. Le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres entre le 2 et le 16 décembre. Il s'agira notamment d'allonger les mandats en cours, mais surtout de fixer 2 dates pour le premier et le deuxième tour à la fin du mois de juin 2021, comme le préconise Jean-Louis Debray qui a remis son rapport ce matin.
Tout le rapport a été d'essayer de trouver un équilibre entre l'exigence démocratique et l'exigence sanitaire. Comment faire campagne électorale quand il y a le confinement ou le couvre-feu ? Pas possible. Donc, première recommandation, juin 2021.
Matignon souhaite la plus large adhésion possible et ce devrait être le cas. Ce report fait consensus dans la classe politique. En revanche, le débat est plus ouvert sur les modalités de vote. Par correspondance, en ligne, Jean-Louis Debray suggère leur développement, mais sous condition. Certains élus réclament des avancées en ce sens, mais du côté de Matignon, ces solutions ne sont pour le moment pas du tout envisagées.
Voilà, Jacques Seret du service politique d'RTL, le vote par correspondance ou le vote numérique, on va en parler dans quelques minutes avec Mounir Majoubi, l'ancien secrétaire d'État au numérique, qui est aujourd'hui porte-parole de La République En Marche. On marque une courte pause dans un instant, ce sera la suite du journal d'Amandine. Ah, on va passer enfin la commande ou les commandes au Père Noël. À tout de suite.
RTL Soir. Vincent Parisot, RTL Soir.
Avec la suite du journal d'Amandine Bégaud. Amandine, on va à Avrillé, c'est près d'Angers.
C'est là qu'un adolescent a été poignardé à la sortie des cours, tout à l'heure à la mi-journée. Que s'est-il passé, Christian Panvert? Est-ce qu'on en sait plus ce soir?
Oui, au regard des premiers éléments de l'enquête, on parle d'une rixe sur fond de rivalité de quartier. Gilles et Marie-Geneviève habitent près du lycée professionnel. Ils ont assisté à la scène.
Ça s'est passé là?
J'ai vu le gamin se faire tabasser au stop là-bas, assez fortement. Des bons coups de pied, des coups de poing, il tira par terre, c'était violent.
Bon, le jeune il s'est écroulé, tout le dos en sang.
Devant les grilles de l'établissement, les élèves sont rivés à leur portable, alimentent les réseaux sociaux. Emma et Hugo connaissent bien la victime, scolarisée en seconde.
Le gars qui s'est fait planter, qui est mon ami depuis très longtemps, pourrait demander à n'importe qui, c'est vraiment pas quelqu'un de méchant.
J'ai vu dans la cour, il parlait avec ses amis et tout, mais il n'y avait rien de bizarre. Il était comme d'habitude, il allait juste manger chez lui et ça a tombé sur lui.
Après, ça existe depuis des années, les guerres de quartier.
Une cellule d'écoute a été mise en place. Julien, prof d'anglais, est très choqué.
C'est la première fois en fait que ça arrive. C'est un lycée qui est très très calme, on n'a jamais eu de problème.
Le pronostic vital du jeune qui a été touché par plusieurs coups de couteau n'est plus engagé. La police a identifié le véhicule des trois agresseurs qui ont pris la fuite.
Christian Panvert à Avrillé, près d'Angers, à Grenoble. À présent, une enquête administrative est ouverte ce soir au niveau local après la plainte déposée hier par deux collégiens. On vous en parlait ce matin sur RTL. Ils accusent des policiers de les avoir violemment interpellés parce qu'ils ne portaient pas de masque. Un signalement a également été effectué auprès de l'IGPN, la police des polices.
Sport et Covid, rugby, France-Fidji n'aura pas lieu dimanche.
Oui, la rencontre est annulée après la découverte de plusieurs cas positifs côté fidjien. Annulé aussi, OM Nice, ça c'est du foot. Le match était pourtant prévu la semaine prochaine, le 21 novembre. Il y aura en revanche bien un Portugal-France demain en Ligue des Nations.
Et puis le prix Goncourt lui sera bien remis le 30 novembre prochain. Est-ce là que les libraires aient rouvert ou non?
Oui, c'est ce qu'a annoncé tout à l'heure l'Académie du plus prestigieux des prix littéraires qui avance ce soir deux raisons. Écoutez Didier Decoin.
Si on se base sur la conférence de presse du Premier ministre, il n'est pas impossible que les librairies rouvrent à partir du 1er décembre. C'est un pari qu'on fait. La deuxième raison qui est plus importante, c'est que le Goncourt, comme vous le savez bien, est un livre qu'on offre beaucoup à Noël. Et nous ne voudrions pas que les libraires soient empêchés de vendre ce livre au prétexte qu'ils ne savent pas quel en est le titre, l'auteur et l'éditeur. Donc on s'est dit que comme ils avaient quand même eu des bonnes idées pour essayer de contourner l'obstacle de l'interdiction d'ouvrir leur librairie, c'était le moment maintenant de donner le titre du livre et puis de leur permettre d'avoir à peu près un mois pour essayer de faire un résultat moins catastrophique que ce qu'on pouvait craindre.
Didier Decoin, le président de l'Académie Goncourt au micro RTL de Bernard Lehu. Le prix Goncourt, qui fait partie des cadeaux qu'on trouve souvent au pied du sapin, c'est aussi l'un des cadeaux les plus revendus le lendemain de Noël, figurez-vous.
Oh, le Goncourt!
Et ouais, bon, bref, pour ne pas être déçu, le mieux, c'est de faire sa liste au Père Noël. Et il est temps, oui, puisque son secrétariat, ça y est, a ouvert ses portes, Denis Grangeau.
Oui, signe de ces temps incertains, le Père Noël est très souvent masqué sur les dessins des enfants que découvrent les lutins.
Je peux pas faire Noël avec papy, mamie. Mais le Père Noël, il faut qu'il mette son masque, c'est important. C'est vrai que je ne pensais pas autant, moi.
Certains petits expéditeurs des quatre coins de la France, mais aussi du monde entier, ont déjà trouvé le remède très très loin de la chloroquine.
Du lait chaud, des mandarines, du jus d'orange. Fais très attention à toi avec le Covid. Gros bisous, Aya.
Alors, dans le secrétariat secret du Père Noël, les lutins sont beaucoup plus espacés que d'habitude, mais le moral est là.
Oui, il y a une très bonne ambiance. Alors après, il y a la distanciation, mais on communique, il y a aucun souci, l'ambiance est toujours là. Et il nous envoie plein de mots d'amour aux lutins comme au Père Noël.
De l'amour et parfois aussi de la malice, comme pour Logan, 6 ans.
Bonjour Père Noël, je t'envoie cette lettre avec ma tétine, car aujourd'hui je suis un grand garçon et je n'en ai plus besoin. Bisous.
Mais les lutins ont découvert le poteau rose, car en fait d'une tétine, il s'agissait...
Une petite toupie qui ressemble à une tétine.
Bien joué Logan. Allez, pour toi comme pour nous, vivement Noël.
Il est très fort. Ouais, bien joué le coup de la toupie. C'était Denis Grangeau à Libourne, donc dans le secrétariat du Père Noël. J'adore.
Père Noël masqué. Hein.
On va commencer à compter les jours. Bon.
Avec les lutins masqués, oui. Il y a encore un petit peu de marge.
Oui. Un mois et demi.
À tout à l'heure, Amandine. Dans un instant, l'hypothèse du vote par correspondance, du vote électronique en ligne également pour les futures élections. C'est une proposition du rapport Debré. On va en parler avec Mounir Majoubi, le porte-parole de La République En Marche, ancien secrétaire d'État au numérique. Il est pour. À tout de suite.
RTL Soir.